RFI, 7h30 à Paris et à Kinshasa, 6h30 en temps universel. À la une de votre journal, Paul Lonsin-Spinelli, Bukavu, dans l'est de la RDC, où les habitants osent sortir de chez eux de nouveau après la prise de la ville par le M23 soutenu par le Rwanda.
Le groupe armé et les troupes rwandaises sont en effet entrées dans la ville dimanche et désormais les activités économiques reprennent progressivement et les habitants tentent de trouver de la nourriture. Le parti présidentiel, largement vainqueur des élections sénatoriales au Togo, le camp de Faure Gnassingbé remporte 34 des 41 sièges mis en jeu, ce qui ouvre la voie à l'application de la nouvelle constitution. Notre correspondant vous expliquera les prochaines étapes. La Gambie fête les 60 ans de son indépendance aujourd'hui, mais aussi les 8 ans du changement de régime, l'occasion de faire le bilan d'Adama Barrow au pouvoir. Et puis notre dossier en fin de journal consacré au sommet de l'Organisation mondiale de la santé sur la sécurité routière organisé pour la première fois en Afrique. L'événement débute au Maroc, à Marrakech aujourd'hui.
Et Paul, les rues de Bukavu qui s'animent de nouveau dans l'est de la République démocratique du Congo.
Après la prise de la capitale provinciale du Sud Kivu par le M23 soutenu par les troupes rwandaises, c'était dimanche, les habitants sortent de nouveau de chez eux. Les activités économiques reprennent elles aussi peu à peu, Willy Diallo.
Après avoir passé deux jours sans mettre les pieds dehors, Zena est sortie pour vendre les derniers poissons qu'elle entreposait chez elle.
Je suis là à cause de la faim chez moi. Mes enfants me demandent à manger car depuis vendredi, nous étions enfermés à la maison. Je ne leur donnais que de la bouillie. J'ai estimé que je pouvais recommencer la vente. J'ai encore peur, mais c'est Dieu qui va nous aider.
Sur différentes places de la ville, les habitants sont venus constater les dégâts liés aux tirs et aux pillages des magasins et marchés. Hortense a passé deux jours à entendre les balles siffler autour du camp Sayo.
Je vois que nous pouvons déjà commencer à vivre, mais avec précaution. Il n'y a aucun mouvement qui peut nous rassurer que l'on peut déjà marcher avec certitude. Moi, souvent, je vois des véhicules des militaires passer. J'entends qu'ils tiennent un meeting. Peut-être que je serai rassurée.
Didas observe et regarde les quelques motos et taxis qui circulent. Les ambulances qui acheminent les blessés vers les hôpitaux attirent son attention.
On a passé des moments très très difficiles. Les armes qui circulent parmi les civils, c'est un grand danger.
Le CICR alerté hier sur les nombreux blessés de guerre par balles et explosifs arrivés dans les centres de soins. L'organisation espère aussi pouvoir identifier les morts et leur donner une sépulture décente.
Récit signé Willy Diallo. Ces combats entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise engendre également des déplacements de population vers le Burundi. Hier, le gouvernement burundais indiquait que 10 000 personnes avaient franchi la frontière ces trois derniers jours.
RFI. Au Togo, le parti du président Faure Gnassingbé sort renforcé des élections sénatoriales.
Le scrutin du 15 février donne en effet une solide majorité à l'Union pour la République avec 34 sièges sur 41. Pour que la Chambre soit au complet, désormais, le président de la République doit encore nommer le dernier tiers, c'est-à-dire les 20 sénateurs restants. Et cela ouvrira ensuite la voie à l'application de la nouvelle constitution. Peter Sassou-Dogbé.
La nouvelle constitution est en application depuis le 6 mai 2024 pour une période transitoire de 12 mois. Les élections sénatoriales de ce week-end marquent une étape clé dans la mise en place des nouvelles institutions de la 5e République. Dans un délai de 4 à 8 jours, après épuisement des recours, la Cour constitutionnelle publiera les résultats définitifs. Ensuite, le président de la République appliquera l'article 95 de la nouvelle constitution pour nommer les 20 sénateurs restants. Une fois le Sénat au complet, il devra se réunir le deuxième jeudi suivant, la proclamation des résultats définitifs. Un règlement intérieur doit être adopté, un bureau exécutif constitué. Le Sénat ainsi formé se réunira en congrès avec l'Assemblée nationale pour élire le président de la République et permettre la prise de fonction du président du Conseil des ministres. Faure Gnassingbé, président de l'Union pour la République, majoritaire à l'Assemblée nationale, avec 108 députés sur 113, deviendra donc le président du Conseil des ministres. Peter Sassou-Dogbé Lomé, RFI.
Cela fait 60 ans que la Gambie est un État indépendant. L'ancienne colonie britannique fête l'événement aujourd'hui avec une cérémonie organisée comme chaque année dans la capitale Banjul. Au programme, une série de défilés dans l'enceinte du McCarthy Square, un festival de musique ou encore un match de lutte. Ce 18 février, il marque aussi le 8e anniversaire du changement de régime survenu en 2017. Le président Adama Barrow prêtait alors serment, mettant fin à 22 années de dictature. Il a été réélu en décembre 2021 pour un deuxième mandat. 8 ans donc après son arrivée au pouvoir, plusieurs avancées notables ont été enregistrées. Léa Lisa Westerhoff.
La liberté d'expression, la liberté d'association et la paix dans le pays sont citées parmi les principales avancées de l'ère Adama Barrow. Après 22 ans de dictature sous Yahya Jammeh, les Gambiens n'ont plus peur de s'exprimer dans l'espace public, estime le directeur du musée national de Banjul, Assoum Sesey. Sont cités aussi les progrès réalisés du côté des infrastructures, la construction de routes, mais surtout du pont Sénégambie, qui depuis janvier 2019 facilite la circulation entre le Sénégal et son voisin enclavé. Le gros point noir reste à l'unanimité. Limiter la lutte contre la corruption, le manque de transparence dans la gestion des ressources publiques, mais aussi l'absence de poursuite. Le pays est classé 96e sur 180 en termes d'indice de perception de la corruption. Enfin, l'absence d'opportunités économiques est aussi pointée du doigt. Le secteur touristique, durement touché depuis la crise du Covid-19, ne reste que l'agriculture et des milliers de jeunes qui tentent chaque année d'émigrer clandestinement direction les îles Canaries, faute de réelles opportunités et de travail dans leur pays. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
C'est un fléau du quotidien qui touche un travailleur ivoirien sur deux.
Il s'agit des violences et du harcèlement sur son lieu de travail. Ce chiffre, il est issu d'une étude récente de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, l'ENSEA. Ces mots prennent plusieurs formes. Cela va des pressions psychologiques aux abus de pouvoir et cela prend également parfois la forme du harcèlement sexuel. Abdoulaziz Diallo.
À la sortie de l'université, Mireille décroche son premier emploi dans une entreprise de la place. Mais sa joie sera de courte durée. L'un de ses supérieurs hiérarchiques jette son dévolu sur elle. Malgré son refus d'entrer dans son jeu, il insiste et la harcèle pendant plusieurs mois.
Il a eu une sorte d'attouchement. Il a eu à tenir des propos déplacés vis-à-vis de ma personne, chose que je n'appréciais pas. Mais au vu du titre de la personne, j'avais du mal au départ à prendre une décision ferme par peur que cela ait des répercussions sur mon travail ou sur ma carrière.
Ne supportant plus la situation, Mireille finit par quitter son emploi. Comme elle, plus d'un travailleur sur deux en Côte d'Ivoire déclare avoir été victime de violence ou de harcèlement au travail. L'étude de l'ENSEA met en évidence des abus psychologiques, mais aussi du harcèlement sexuel. Face à ce fléau, l'ONG Akwaba Mousso accompagne les entreprises pour tenter d'y mettre un terme. Maureen Grisot est la directrice exécutive.
Il s'agit de plusieurs procédures afin de mettre en confiance les victimes de harcèlement sexuel et de protéger les victimes ou les personnes à qui elles se confient. Il y a aussi une phase de sensibilisation du personnel pour expliquer ce qu'est le harcèlement sexuel, car beaucoup ne savent pas que certains de leurs actes font partie du prisme du harcèlement sexuel.
En Côte d'Ivoire, la loi prévoit une peine d'un à trois ans de prison et une amende de 360 000 à 1 million de francs CFA en cas de harcèlement en milieu professionnel. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Au Mali, les enseignants-chercheurs ont mis fin à 3 semaines de grève hier. L'une des principales revendications, c'était l'application de la prime de recherche. Depuis sa création en 2017, elle n'avait jamais été versée. Après avoir ignoré le mouvement au départ, le gouvernement malien finalement a mis en place conjointement avec les syndicats une commission de réflexion qui sera chargée de fixer le montant de cette prime et ses modalités de distribution. L'une des questions qui devra être discutée, c'est celle des arriérés. David Bachet, le moment est donc pour l'instant à l'apaisement, mais des négociations doivent encore avoir lieu.
Nous avons pu faire entendre notre voix. Pour le secrétaire général du syndicat SECMA, Bakary Berté, la création de cette commission de réflexion est déjà une victoire. Les deux camps ont besoin de souffler un peu, commente avec moins d'enthousiasme un enseignant-chercheur, lui-même syndiqué à la SECMA. Il s'agit aussi d'éviter les retenues sur salaire. Au cours des 3 semaines de grève, le ministère de l'Enseignement supérieur a demandé aux recteurs d'université de veiller scrupuleusement à l'application de ces retenues pour les grévistes, conformément à la loi. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font, commente dubitatif un autre enseignant-chercheur, membre de la SNESUP. Après avoir personnellement observé les 3 semaines de grève, il aurait préféré que les syndicats obtiennent des engagements concrets avant de cesser le mouvement. Maintenant, il faut imposer un délai maximum pour la remise des propositions au gouvernement, juge encore cet enseignant-chercheur, qui se déclare un peu optimiste pour les négociations à venir. Son confrère affilié à la SECMA est plus ouvertement sceptique sur les intentions du gouvernement de transition. Outre outre leur mauvaise foi, déclare cette source, ils n'ont pas d'argent en réalité. Sollicité par RFI, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas souhaité commenter.
Une précision signée David Bachet.
Et puis Paul, en 10 ans, la baisse du nombre de personnes décédées sur les routes dans le monde reste largement insuffisante.
D'après un chiffre publié dimanche par l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, la mortalité routière s'établissait autour d'1 200 000 personnes. Une très légère baisse de 5% est observée par rapport à 2010, mais toujours loin donc de la réduction de moitié du nombre d'accidents de la route souhaité par l'OMS. L'organisation qui tient d'ailleurs sa 4e conférence ministérielle sur le sujet au Maroc. Elle s'ouvre ce matin à Marrakech. C'est le premier événement du genre à se tenir en Afrique. Le continent détient les taux de mortalité sur la route parmi les plus élevés au monde. L'occasion donc de réfléchir à des pistes d'amélioration. Selon Étienne Krug, il est directeur du département des déterminants sociaux de la santé à l'OMS.
La sécurité ou l'insécurité routière est la première cause de mortalité chez les jeunes, la 12e cause de mortalité tout âge confondu, et tue 1 200 000 personnes chaque année. Et le but de la conférence est vraiment d'accélérer le progrès. Le monde vit énormément de difficultés pour l'instant, des crises du changement climatique, retrait de l'aide au développement, les guerres. Cette crise de l'insécurité routière est une qu'on peut résoudre relativement facilement. On a les solutions. Il faut une décision politique au plus haut niveau de chaque pays de se dire, voilà, ça suffit, on ne veut plus payer ce prix pour notre mobilité, on va s'attaquer à l'insécurité routière. Ça nécessite un petit investissement financier au départ, mais on le récupère largement par après. Et bien sûr, en vie sauvée également.
Étienne Krug, des solutions pour lutter contre la mortalité routière. Il en existe. Les experts s'accordent par exemple pour dire que des programmes scolaires dédiés à la sécurité routière doivent être mis en place dès l'école primaire. Certains proposent également la création d'un permis piéton, en plus des permis pour les véhicules motorisés. À Bouaké, en Côte d'Ivoire, l'ONG Amund œuvre, elle, à réaménager les zones autour des écoles. Ce sont des zones particulièrement accidentogènes et pour cela, elle s'appuie sur une analyse par drone du trafic et l'intelligence artificielle. François Mferkataji.
Barrières de sécurité, séparateurs, dodanes, où et comment mettre en place ces aménagements? C'est le travail de l'ONG Amund qui s'appuie sur une analyse détaillée du trafic, de la vitesse des véhicules, de l'état des routes. L'ONG œuvre notamment à Bouaké, aux abords des écoles, ville connue pour son nombre important de deux roues en circulation. Mélissande Boyer, responsable du programme.
Et à ce moment-là, on est capable de faire une proposition de l'amélioration de l'infrastructure, de sorte qu'on puisse, d'une part, protéger les enfants, séparer de la circulation et ralentir la vitesse des usagers de la route, qui sont les premiers dangers pour ces enfants.
Une collecte de données fastidieuse et coûteuse, aujourd'hui facilitée par l'intelligence artificielle. Jacques Amatcha est le responsable informatique de l'ONG.
Aujourd'hui, par exemple, on utilise un drone et on capte l'information. On utilise ensuite l'intelligence artificielle pour analyser en fait les flux de véhicules, les trajectoires et tous ces éléments, ce qui nous permet en fait de gagner par exemple autour de 3 semaines en efficacité.
Les dodanes ou ralentisseurs restent la solution la plus efficace pour faire rapidement baisser le nombre d'accidents. Aménagement, mais aussi sensibilisation. À Bouaké, les recherches du géographe Emmanuel Bonnet montrent que le casque est mal utilisé ou ne l'est pas du tout.
39% des usagers de moto portent le casque, 25% d'entre eux le portent mal, ne ferment pas la jugulaire ou le portent de travers sur la tête. Et par contre, 100% des passagers ne portent pas le casque.
Le chercheur a recensé 120 morts et plus de 3500 hospitalisations ces 3 dernières années pour la seule ville de Bouaké. François Mferkataji, Marrakech, RFI.